Bonsoir, mesdames et messieurs. Soyez les bienvenus pour cette conférence sur le channeling énergétique. Tout d'abord, je vous félicite d'être resté aussi tard pour assister à une conférence. Donc, je vais essayer de faire en sorte qu'elle soit la plus intéressante possible. J'aurais commencé par un petit jeu, un petit sondage rapide. Alors, je vous préviens tout de suite, il n'y a rien à gagner. Si ce n'est le plaisir de participer, ce qui est déjà pas mal. Alors, trois questions pour démarrer. J'aimerais savoir qui, parmi nous, a déjà identifié des comportements ou des situations, des schémas répétitifs dans sa vie quotidienne qui semblent n'avoir aucun sens. Des moments où on se dit, mais pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais ça? Et pourquoi il m'arrive toujours ça? Alors, qui a déjà rencontré ce genre de situation? Ouais. Quasiment tout le monde. Deuxième question. Qui, parmi nous, a déjà expérimenté une forte réaction émotionnelle dans une situation dans laquelle on se sentait a priori pas vraiment concerné? Donc une réaction complètement disproportionnée par rapport à l'événement. Ouais, presque tout le monde aussi. Pas mal. Troisième question, qui parmi nous a déjà subi un choc? Alors, ça peut être un choc physique, ça peut être un choc émotionnel. Il y a déjà plein de mains qui se lèvent. J'ai pas fini la question. Un choc tout en se disant, mais c'est vraiment trop injuste ce qui m'arrive. Pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors, qui a déjà ressenti ça? Ouais, là aussi, beaucoup de monde. Donc, vous voyez, au travers de ces trois questions, alors, le résultat du sondage, c'est que, je peux vous rassurer sur un point, c'est que vous êtes complètement normaux. Si vous aviez un doute, déjà, soyez rassurés, on en est tous là. On en est tous à traverser ce type de situation dans lesquelles il se passe des choses qu'on ne comprend pas, dans lesquelles entrent en jeu des phénomènes qui sont des mémoires, des blocages, on va le voir, qui nous dépassent, qu'on ne soupçonne pas, et qui, au final, nous polluent la vie, parce que c'est quand même ça qui se passe. Alors, ces phénomènes, ces mémoires, ces blocages, avant de voir d'où ils viennent et comment ils interfèrent dans notre quotidien, je voudrais m'arrêter deux minutes sur la manière dont ils s'expriment. Comment ça se manifeste, tout ça? Donc il y a les situations que j'ai un peu décrites au travers des trois questions, mais on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Tout d'abord, première catégorie de manifestations, il y a les manifestations physiques. Donc tout ce qui vient se manifester dans notre corps. Donc, l'apparition des malaises, des maladies, des douleurs, des bobos, etc. etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, eh bien, ce sont des messages de l'âme. Ce sont des informations, ce sont un peu des signaux d'alerte. C'est notre âme qui nous dit, tu as quelque chose à recevoir et tu as quelque chose à travailler. Pour moi, parce que l'âme, elle demande qu'on travaille pour elle, pour son évolution. Et lorsque les signaux sont pas entendus, parce que on n'a pas forcément un téléphone portable qui marche super bien avec notre âme, malheureusement, en tout cas pas toujours, lorsque les signaux sont pas entendus, elle va envoyer des signaux différents, plus forts, et de plus en plus forts jusqu'à ce qu'on les entende. Donc, tant qu'à faire, si on peut les entendre avant d'en arriver à la maladie grave, c'est pas plus mal. Les signaux dans le corps, ça peut être plus ou moins grave. Il peut y avoir les maladies graves, effectivement. Il peut y avoir les maladies chroniques. Il peut y avoir les trucs embêtants. Il peut y avoir les petits bobos. Il peut y avoir les petits accidents. Il peut y avoir le petit rhume, la petite coupure, etc. Mais tout ça, ce sont quand même des signaux de l'âme. Donc, si on peut s'en occuper au moment où on en est au petit rhume ou à la petite coupure, moi personnellement je préfère avant d'en arriver à l'autre extrémité. Donc en fait il est urgent de ne pas attendre dans ces cas-là. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? lorsque ça se manifeste dans le corps, lorsqu'il y a un malaise, un bobo ou une maladie qui apparaît, eh bien, la première réaction naturelle et j'ai envie de dire presque chez tout le monde, ça va être d'essayer de se soigner de manière, on va dire, relativement classique pour faire disparaître les symptômes. Bon, bah ça, très bien. Il faut le faire. C'est bien. Le deuxième niveau de réponse, ça va être peut-être un peu ce que vous allez rencontrer en vous baladant dans les allées sur ce salon, dans beaucoup de cas, d'essayer d'aborder ça sous l'angle énergétique, sous l'angle, j'ai envie de dire psychologique, même si j'aime pas trop le mot, en tout cas essayer de comprendre, essayer d'aller chercher ce que ça veut dire, parce que si ça s'est déclenché à ce moment-là, à tel endroit, dans le corps, etc., c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y avait peut-être une faiblesse, il y avait peut-être une carence, il y avait peut-être un déficit énergétique. Et effectivement, traiter cet aspect-là, bah, c'est utile aussi. Ça, c'est les deux premiers niveaux. Puis il y a un troisième niveau, qui est ce que je propose au travers du channeling énergétique, c'est d'essayer de remonter à l'origine de ce que l'on vit, à l'origine de la douleur ou de la maladie, pour pouvoir traiter cette origine. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le premier et le deuxième niveau, hein, c'est très important aussi, mais tant qu'à faire, si on veut aller au bout, eh ben, essayons de remonter à la cause et de traiter la cause, parce que si on ne traite pas la cause, ça va revenir, forcément, d'une manière ou d'une autre. Ça, la première catégorie de manifestations, les manifestations physiques. Deuxième catégorie, il y en aura trois en tout, hein. Deuxième catégorie, c'est tout ce que je n'arrive pas à faire. Alors là, il y en a un paquet de choses que j'arrive pas à faire. Ça peut être, par exemple, j'arrive pas à trouver un amoureux ou une amoureuse. J'arrive pas à trouver, à construire une relation de couple durable. Je peux l'avoir trouvé, mais ça marche pas. Ça marche jamais. À chaque fois, ça s'arrête. À chaque fois, il y a un problème qui fait que ça dure pas. J'arrive pas à faire un bébé. Tout ça, c'est des cas que je rencontre dans ma pratique. Donc, je vous donne un peu des pistes de situations dans lesquelles on sait qu'il y a un problème derrière à traiter. J'arrive pas à trouver un boulot. J'arrive pas à gagner de l'argent. J'arrive pas à développer mon chiffre d'affaires, mon activité professionnelle. J'arrive pas à être heureux. J'ai une dame l'autre jour qui est venue me voir en arrivant. Elle me dit ça. J'arrive pas à être heureuse. J'arrive pas à vivre. Waouh. Bon, ça plombe hein, tout de suite. Mais bon, c'est la réalité. C'est ce qu'elle vit, ce qu'elle vivait, parce qu'on a travaillé dessus. J'arrive pas à être moi-même. J'arrive pas à prendre ma place. J'arrive pas à m'affirmer. J'arrive pas à trouver ma place. Ce qui est différent, trouver et prendre sa place. J'arrive pas à trouver ma place, c'est typiquement ce que me disent les gens qui viennent me voir en me disant je me cherche, je voudrais savoir pourquoi je suis fait, quel est mon talent. Alors ça peut être par rapport à un souci d'évolution professionnelle, ça peut être plus dans un domaine perso, mais ces gens-là se cherchent leur place. Ça peut être j'arrive pas à m'exprimer, j'arrive pas à lâcher prise, j'arrive pas à ressentir. Ça, c'était il n'y a pas longtemps aussi, une dame qui ne ressentait rien, qui me disait « j'ai pas d'envie, j'ai pas de ressenti ». Ça peut être aussi des choses très concrètes, hein, j'arrive pas à dormir, par exemple. Ça peut peut-être paraître moins grave, mais c'est embêtant quand même. Etc., etc. Alors la liste, elle n'est pas exhaustive, hein. On pourrait faire une conférence rien que là-dessus, mais comme ce n'est pas le sujet, je vais passer à la troisième catégorie. La troisième catégorie, c'est ce que je ne peux pas m'empêcher de faire. Donc là, pareil, on retrouve plein de choses. Je ne peux pas m'empêcher d'être en colère. Donc ça peut être en colère contre mes enfants, mon conjoint, mon voisin, mon chien, mon patron, le voisin dans le métro, peu importe. Je ne peux pas m'empêcher d'être en colère. Je ne peux pas m'empêcher d'être triste. Des cas de dépression, par exemple. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir peur. Ça peut être des peurs en général, peur de l'autre. Ça, c'est un cas aussi que j'ai eu récemment. Quelqu'un qui avait peur de l'autre et qui, du coup, dès qu'il y avait quelqu'un qui rentrait dans la pièce, elle essayait de s'enfoncer dans la moquette pour disparaître. Bon, comme les moquettes sont rarement assez épaisses, et ben, elle avait quand même finalement à affronter l'autre, mais c'était très très difficile pour elle. Et puis les peurs, ça peut aussi bien sûr se concrétiser par des phobies. Phobie de tout ce que vous pouvez imaginer, d'un animal en particulier, c'est assez fréquent, mais ça peut être la peur du vide, la peur de l'avion, plein de choses. Je peux pas m'empêcher. Waouh, ça a l'air sympa à côté. Je peux pas m'empêcher de faire Tarzan vendredi à 20h30, par exemple. Ça peut arriver. Je ne peux pas m'empêcher de saboter. Ça peut être saboter une relation, ça peut être saboter un projet personnel. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant « Je suis le champion de l'auto-sabotage. » À chaque fois, je leur dis « Si vous saviez le nombre de champions qu'il y a, la concurrence est rude. » Mais c'est quand même assez fréquent. Je ne peux pas m'empêcher de tromper ma femme ou de tromper mon mari. Ça arrive aussi. Je ne peux pas m'empêcher de parler. J'en connais. C'est fatigant, hein, surtout pour les autres. Alors bien sûr, il y a toutes les addictions dont je ne peux pas m'empêcher. Tabac, alcool, drogue, jeux, téléphone portable, nourriture. Tout ce que vous pouvez imaginer. Shopping. Je ne peux pas m'empêcher de me sentir responsable. De me sentir coupable. En général, quand on ne peut pas s'empêcher de se sentir responsable, c'est surtout se sentir responsable de tout ce qui ne va pas. Hein. Parce que ce qui va bien, ce n'est pas grâce à nous. Ben non, ça serait trop facile. Hein. Donc, vous voyez, au travers de ces exemples, là encore, hein, c'est, la liste, on pourrait la rallonger à volonté. Ça, c'est pour vous montrer un peu toutes les situations, en tout cas des exemples de situations dans lesquelles on se rend compte qu'on a en nous quelque chose. Il y a un truc, je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui fait que je ne peux pas m'empêcher de faire ça. Et bien dans ces cas-là, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose pour régler tout ça, pour le traiter, pour les traiter, ces situations. Et c'est important de les traiter parce que sinon ça ne change pas. Et puis, non seulement ça change pas, donc je vais continuer à pas arriver à trouver une amoureuse, par exemple, mais ça va pas aller en s'arrangeant. Parce que si je règle pas le sujet qu'il y a au fond, mon âme, elle va continuer à m'envoyer des messages de plus en plus forts, et puis il va peut-être y avoir d'autres conséquences. Et puis, comme de toute façon, j'aurais pas réglé ça dans cette vie-ci, et ben, je retrouverai le problème dans la vie suivante. Donc, c'est reculer pour mieux sauter. Donc, autant essayer de prendre le sujet à bras-le-corps dès maintenant. Et pour prendre le sujet à bras-le-corps, eh bien, la méthode que je propose, le channeling énergétique, nous permet de faire ça. Ça nous permet de faire ça comment ? Eh bien, en allant, d'abord, premièrement, se connecter pour aller chercher l'information. Qu'est-ce qui est à l'origine du fait que je ne peux pas m'empêcher de parler tout le temps et que je saoule toute ma famille ? Qu'est-ce qui fait que je suis comme ça ? Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, eh bien, ça va être de libérer cette cause. Je vais donner des exemples de causes après, hein, et des exemples de libération. La deuxième étape, ça va être la libération. Et la troisième étape, eh bien, ça va être de poursuivre mon chemin et d'intégrer les modifications qui sont liées à cette libération. Et là, je vais découvrir que eh ben aujourd'hui, j'ai peut-être moins parlé qu'hier. Voilà. Et donc, il y a des choses qui changent et j'accepte ce changement et j'intègre ce changement en moi. Alors, ces phénomènes, ces blocages qu'on a en nous, d'où viennent-ils ? Et en quoi ça consiste ? Eh bien, ils viennent de tout ce dont nous sommes le fruit. Je m'explique. Alors, Le petit bonhomme, là, au cas où vous ne l'auriez pas reconnu, c'est moi. Eh bien, moi, je suis le résultat d'un certain nombre de choses. Je subis des influences d'un certain nombre de choses. Tout d'abord, il y a mon vécu. Tout ce que j'ai vécu, entre le jour de ma naissance, je devrais peut-être plutôt dire de ma conception, et aujourd'hui, 30 septembre, 20h17. Ensuite, comme je n'ai pas commencé le jour de ma conception, comme j'ai eu un certain nombre d'expériences avant, et comme nous avons tous eu un certain nombre d'expériences avant, d'incarnations précédentes, eh bien, je porte aussi les héritages de mes incarnations passées. Et ça, il peut y en avoir un paquet, hein, parce qu'en général, on est là depuis un certain temps. Comme si ça ne suffisait pas, on a, en général, une famille. Et dans la famille, eh bien, qui dit famille dit héritage. L'héritage, ce n'est pas forcément des sous, hein, c'est même, dans la majorité des cas, il n'y a pas beaucoup de sous. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de mémoire. Donc la lignée, elle nous envoie beaucoup de choses. Et puis, parce que s'il n'y avait que ça, on va dire que ça serait simple. Et puis, eh bien, on est aussi, on porte aussi des héritages qui viennent de l'inconscient collectif, de tout ce qui a été vécu par toutes les âmes à travers les âges. Voilà, rien que ça. Alors, on va un peu les passer en revue, ces quatre points, pour voir quel type de mémoire ou de blocage peuvent provenir de 1, 2, 3 ou 4, et puis comment on se libère de ça. Alors, par exemple, mon vécu. J'ai eu une dame qui était venue me voir pour des problèmes de poids. De surpoids, bien sûr. Enfin, bien sûr. Non, c'est pas bien sûr, parce que parfois c'est dans l'autre sens. Et en soins, je contacte un souvenir. Alors, je dis souvenir, c'est un souvenir dans le sens où c'est quelque chose qu'elle avait vécu, mais elle n'en avait absolument pas conscience, parce que ça s'est remonté à sa toute petite enfance et elle l'avait complètement occulté. Mais moi, je perçois cette expérience qu'elle avait vécue. Elle avait fait une partie de cache-cache qu'elle avait trop bien réussi, parce qu'elle s'était tellement bien cachée que personne l'avait trouvée. Et puis, ça l'avait traumatisée, parce que du coup, elle était restée toute seule, perdue, derrière son petit bosquet, alors que la nuit tombait. Enfin bon, voilà, je vous passe le... C'est pas un film d'horreur, mais presque. Elle avait été traumatisée, cette petite fille, et elle en avait développé la croyance que pour être trouvée dans son jeu, pour être vue, eh ben, il fallait prendre plus de place, il fallait être visible. Et du coup, ces kilos, ils étaient là pour ça, ils étaient là pour qu'elle soit visible. Et donc, tant qu'elle avait cette croyance-là en elle, inutile de vous dire que tous les régimes, c'était même pas la peine d'essayer, quoi. Ça marchait pas, évidemment. Et donc là, on a libéré cette croyance de manière à ce qu'elle puisse, derrière, arranger les choses en termes de poids. Un autre exemple sur le vécu, une personne qui avait des difficultés d'expression. Et là, ce qui était ressorti, c'était là aussi un souvenir de la petite enfance qui avait été occultée, où lorsqu'elle était tout bébé, elle essayait de s'exprimer, alors avec le langage des bébés, hein, à sa manière, et chez ses parents, c'était l'indifférence la plus totale. Pourquoi ? On peut imaginer des choses, mais enfin, peu importe, ce n'est pas le sujet. En tout cas, ses parents ne lui accordaient pas d'attention lorsqu'elle essayait de s'exprimer. Donc, le petit bébé, qu'est-ce qu'il avait fait ? Parce qu'ils sont futés, les bébés. Hein. J'ai dit, c'est pas la peine que je me fatigue, hein. De toute façon, ça ne sert à rien. Il ne m'écoute pas, donc je me tais. Croyance, ce que j'ai à dire n'est pas intéressant. Et à l'âge adulte, ça donne quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Voilà. Et donc, on a libéré ça, une fois que le souvenir a pu émerger. Elle a pu faire le travail pour se connecter au bébé, se connecter à la petite fille d'un point de vue énergétique, et pouvoir libérer et laisser partir cette croyance. Alors, pour la petite histoire, la personne dont je parle, aujourd'hui, elle est en train d'écrire un bouquin. Donc, en termes d'expression, je pense que c'est pas mal. Je vais passer au deuxième point, aux incarnations passées. Alors là, je pourrais vous en donner 30 des exemples, mais la soirée n'y suffirait pas. Alors, quelques-uns. Une personne qui était sujette à des peurs multiples, peur de plein de choses. À répétition, et qui me dit, j'en ai parlé tout à l'heure, qui me dit j'ai pas le droit de vivre, j'ai pas le droit d'être heureuse. Eh bien, en séance, nous avons contacté une incarnation passée, alors il n'a pas été nécessaire de remonter bien loin, c'était la vie précédente, hein, où elle avait été pilote d'un bombardier américain pendant la Seconde Guerre mondiale, et le monsieur que cette femme était à l'époque allait larguer ses bombes sur l'ennemi japonais et tuer tous les Japonais qui avaient la mauvaise idée de se mettre sous ses bombes. Ils n'avaient qu'à pas passer par là. Et il était dans une logique de guerre, de haine, d'affrontement, et avec vraiment aucun recul par rapport à ce qu'il faisait. Il était dans sa logique de tuer des ennemis. Quoi. Et cette femme, aujourd'hui, en fait, avait besoin de faire ressortir ce souvenir et de faire l'expérience de l'empathie. Et notamment de l'empathie avec ses victimes. Pour pouvoir ressentir ce qu'était l'empathie, pour pouvoir s'accorder du pardon, et ensuite, et seulement une fois qu'elle a fait ça, en séance, elle a pu laisser partir le souvenir de cette vie passée, et en laissant partir ce souvenir, elle a pu laisser partir aussi cette interdiction de vivre, cette interdiction d'être heureuse. Mais il fallait refaire tout ce processus et remonter à cette vie passée pour qu'elle puisse se libérer. J'ai eu le cas aussi de quelqu'un qui, là aussi, c'était des peurs. Et le sujet derrière ça, c'était, enfin, l'expérience derrière ça, c'était qu'il avait été guillotiné sous la Révolution française. Et le souvenir qui s'était incrusté, c'était le souvenir de la peur panique au moment de l'exécution. Et en fait, cette personne ressentait ça régulièrement, des paniques complètement inexpliquées. Et là, pareil, il a fallu recontacter le souvenir pour apaiser cette panique, la panique du jeune homme qui allait se faire guillotiner, pour pouvoir apaiser la panique de la personne qu'il était aujourd'hui. Un autre exemple, un jeune homme qui est venu me voir il n'y a pas très très longtemps avec des problématiques. Alors, assez multiples d'addiction, on parle de drogue là, et de dépression. Sujet qu'on a traité, en l'occurrence là, c'était surtout la dépression. C'était la dépression, c'était sa demande. Je fais une parenthèse parce que je parle de sa demande. C'est important, quand je reçois quelqu'un, je demande toujours à la personne de définir un objectif à notre séance. Pourquoi je fais ça? D'ailleurs, des fois, ça enquiquine les gens, parce qu'il y en a qui voudraient avoir plein de choses. Et je leur dis, non, vous choisissez. Qu'est-ce que vous voulez? Une chose. Parce qu'on traite une chose à la fois. Et en séance, moi, je me connecte aux énergies de la personne et j'interroge les énergies. Quand je suis dans mon état de conscience modifié, je pose des questions aux énergies. Je leur dis, en gros, mes questions, il y en a deux. C'est d'où ça vient et comment j'aide la personne à se libérer. Mais quand je dis d'où ça vient, c'est d'où vient la peur des araignées, par exemple. Bon. Et c'est important de bien poser la question, parce que les énergies ne demandent qu'une chose, c'est de donner des réponses, mais elles répondent, j'ai envie de dire bêtement, aux questions qu'on a posées. Donc si on se trompe de question, on n'aura pas les bonnes réponses. Donc c'est toujours très important de poser les bonnes questions. Et ce que je dis là, c'est vrai dans ma pratique, mais c'est vrai pour toutes les autres pratiques. C'est important d'avoir un objectif et de demander à l'action qui se déroule d'œuvrer dans le sens de cet objectif. Alors, je reviens à mon petit jeune homme là, qui était en dépression. Et il y avait en fait plusieurs vies antérieures qui se sont manifestées, mais une plus particulièrement, c'était une vie antérieure d'esclave dans l'Égypte ancienne. Et ce que disaient les énergies, c'était qu'il avait vécu toute une série d'incarnations dans des vies de soumission. Il a vécu des expériences de soumission dans lesquelles il avait, il avait remis son pouvoir à l'autre. Et en faisant le soin, en fait, il a fait un travail d'amour de soi et d'acceptation de soi pour se permettre. Alors pour permettre à l'esclave qu'il avait été et à toutes les vies antérieures dans lesquelles il s'était mis dans une position de soumission, mais au final pour se permettre d'accueillir, de reprendre son pouvoir. Et on a traité au cours de cette séance la dépression. Ça demande sa portée sur la dépression, donc je n'ai pas posé la question sur l'addiction à la drogue, mais c'est lié, clairement c'est lié, parce que la drogue, c'est quoi? Il avait remis son pouvoir à la drogue, il était toujours dans le même mécanisme. Donc, je suis certain qu'en travaillant sur la dépression, on a travaillé sur son problème d'addiction. Il n'y a certainement pas que ça, mais en tout cas, sur la partie dépression, quand je l'ai eu au téléphone après, il allait super bien et il redécouvrait ce que c'était que de regarder la vie en face. Ça a vraiment l'air sympa à côté. Hein. Pardon ? Ah bah merci, c'est gentil. Alors, encore un petit exemple sur les vies antérieures, parce que j'aime bien, c'est sympa les vies antérieures. Enfin, c'est sympa. Façon de parler, hein, parce que les expériences que je raconte le sont pas forcément, mais j'aime bien les contacter et puis travailler là-dessus, parce qu'on fait du super travail. Une femme qui était venue me voir pour des douleurs physiques à répétition, et on a recontacté une vie antérieure au Moyen-Âge dans laquelle elle avait été, on va prendre le langage de l'époque, sorcière. Aujourd'hui, on dirait guérisseuse, magnétiseuse, thérapeute, holistique, etc. Enfin bon, bref, le genre de personnes qui pullulent un peu sur le salon. Sauf qu'à l'époque, les sorcières, on n'en faisait pas des salons zen, hein, c'était le bûcher. Donc elle était était persécutée, elle s'enfuyait, elle se cachait, souffrance, peur, panique, etc. Et ce qui est venu, le message des énergies pour aider cette personne à se libérer, ça a été de... il a fallu que ma cliente donc, se connecte à la sorcière qu'elle avait été et lui explique que les personnes qui la persécutaient finalement ne s'étaient pas contre elle, ils n'avaient rien contre elle, c'était juste de l'ignorance, qui ne comprenaient pas, puis ça leur faisait peur. Parce que le cas dans la plupart des persécutions. Hein. Donc déjà, première partie, acceptation, début de pardon. Et puis surtout, il a fallu aussi lui expliquer qu'elle pouvait se réjouir de ce qu'elle avait. Elle pouvait se réjouir de son don, de sa connaissance, de son lien avec la nature, et qu'elle pouvait se nourrir de ça, et qu'elle pouvait en faire un instrument de joie intérieure, et non pas voir ça comme une malchance ou une malédiction qui allait lui amener que des ennuis, pour parler poliment. Donc, ça a été un peu un renversement de perception de la situation qui a été rendu possible parce que les énergies avaient donné ce message et parce que ma cliente a fait ce travail. Vous noterez, je dis toujours que ce sont mes clients qui travaillent parce que c'est à eux de faire le boulot, quoi, tout simplement. C'est leur histoire, c'est leur vie, au pluriel, ce sont leurs expériences, ce sont leurs mémoires, leurs blocages. Et en fait, tout ça s'est incrusté dans leurs énergies. Moi, je suis là pour faciliter les choses, pour canaliser de l'information, parce que c'est pas facile de recevoir les messages des énergies. Mais la guérison, c'est de l'auto-guérison. Et mes clients, ils travaillent. Voilà. Donc quand les gens me demandent comment ça se passe, je leur dis, vous allez travailler. Alors, le travail, il est pas trop compliqué parce qu'ils sont quand même allongés, ils sont en état de relaxation. Mais derrière, il faut se connecter à la mémoire énergétiquement. Comment on fait ? On y pense. Voilà. J'emmène les gens, je leur demande d'y penser, de visualiser, d'entendre, de se connecter à votre manière. Chacun le fait à sa manière. Surtout sans chercher à bien faire. Je dis toujours ça aussi. Cherchez pas à bien faire, laissez faire, quoi. Laissez venir et ça se fait facilement. Ça se fait presque tout seul. Moi, je les guide. Hein. Tout ce que je perçois en channeling, en canalisation, je le dis, je le verbalise. Donc, ça permet à la personne d'entrer en contact avec la sorcière qu'elle avait été au Moyen-Âge. Mais derrière, il n'y a pas grand chose à faire, c'est pas mystérieux, c'est pas un truc avec des mots magiques ou des incantations ou je sais pas quoi. Non, ça se fait simplement. Et puis, lorsque je dis à la personne d'expliquer à la sorcière qu'elle peut se réjouir de ce qu'elle a, elle se visualise en train de lui expliquer. Donc, peut-être qu'elle voit la sorcière et qu'elle se voit en train de lui parler. Peut-être qu'elle envoie simplement par l'esprit, par le cœur, ces mots à travers ces énergies et donc à travers l'espace et à travers le temps. Chacun le fait à sa manière. Et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire. Il y a juste la manière qu'a cette personne de le faire. Et forcément, c'est la bonne. Alors, je vais parler un peu de la lignée maintenant parce que ça aussi, il y en a pas mal. J'ai eu quelqu'un, par exemple, qui venait me voir parce qu'elle avait peur de manquer. Alors, peur de manquer, ça peut être embêtant. Hein. Donc, cette personne, elle avait commencé par... quand on a peur de manquer, en général, on remplit. Donc, elle avait commencé par remplir ses placards, son appartement. Donc, ça débordait de partout. Elle remplissait sa penderie de vêtements. Donc ça fait surtout mal à la carte bleue. Et puis, quand elle a commencé à remplir le frigo et son corps de nourriture, les problèmes sérieux ont commencé à apparaître, quoi. Donc, remplissage, il vaut mieux se méfier. Donc, cette peur de manquer, ce qu'il y avait derrière ça, c'était un... Donc, on est dans la lignée, hein, c'est un héritage familial. C'était un complexe familial qui était lié à des origines modestes. Donc, il y avait peur de manquer à l'origine de nourriture. Ensuite, ça a été peur de manquer d'argent. Ensuite, ça a été peur de manquer de terrain. Et puis, au final, la femme qui est venue me voir, la condition sociale a un peu évolué au fil du temps. C'est quelqu'un d'une condition, d'une classe moyenne, moyenne supérieure, on va dire. Donc, elle n'a pas du tout de raison d'avoir ce complexe. Si tant est qu'on ait des raisons d'avoir un complexe. Mais elle portait toujours cet héritage, cette peur de manquer qui lui venait de sa famille et qui s'était transmise de génération en génération d'un point de vue énergétique. Et donc c'était important, dans ce cas-là, de se reconnecter à l'ensemble de sa lignée. De la même manière qu'on peut se reconnecter à une vie antérieure, on se reconnecte à l'ensemble de sa lignée. Ou en tout cas, à toutes les personnes dans notre lignée qui ont porté cette croyance ou ce blocage. Parce que tout le monde ne l'a peut-être pas porté. De temps en temps, ça saute une génération. Il y en a qui y échappent. Tant mieux pour eux. Mais donc, on peut se connecter à l'ensemble de cette lignée et puis guérir ça et laisser partir cet héritage. Un autre exemple... sur la partie transgénérationnelle, une personne qui est venue me voir en me disant « j'ai peur de l'autre ». J'ai peur de l'autre, donc c'était la dame qui voulait s'enfoncer dans la moquette. Et j'ai un sentiment d'agression permanente. Eh bien, en séance... j'ai vu arriver, je fonctionne beaucoup par image, donc souvent je vois, j'ai vu arriver une vieille femme, très malheureuse. En fait, cette vieille femme, c'était son arrière-grand-mère, qui avait, au cours de sa vie, été agressée à différents points de vue, et notamment physiquement, et violée tout au long de sa vie. Et qui avait, à travers la souffrance de ces agressions, fini par développer la croyance que toutes les relations humaines étaient basées sur un rapport attaque-défense. Donc pour elle, tout était lié à un mécanisme d'attaque et de défense. Et elle avait fait ce joli cadeau à ses descendants. Elle leur avait transmis cette croyance que tout était lié à l'attaque ou à la défense. Et donc, la personne qui était venue me voir, elle portait ça en elle. Et donc, on comprend qu'elle puisse se sentir agressée dès que quelqu'un rentre dans la pièce. C'est logique. Et donc, c'était important, dans ce cas-là, de... Ce qu'on lui a demandé en séance, ça a été d'envoyer de la douceur et de l'amour d'abord à son arrière-grand-mère, pour que son arrière-grand-mère puisse expérimenter une relation basée sur autre chose que l'attaque et la défense. Donc expérimenter une relation d'amour, de partage, de don. Ensuite, il y a une deuxième étape dans le soin. Ces énergies ont demandé qu'elles fassent la même chose avec les bourreaux. Donc les bourreaux de son arrière-grand-mère, ses bourreaux à elle, et tous les bourreaux au sens large. Parce que les bourreaux sont leurs premières victimes. Alors, ça peut parfois être un petit peu difficile à entendre, ce que je dis là, mais voilà, n'empêche que c'était le message de ces énergies, et il fallait qu'elle passe par cette étape d'amour, de partager l'amour avec les bourreaux, pour pouvoir ensuite elle-même laisser partir cette mémoire qui lui polluait l'existence. Et au final, elle a pu accepter, recevoir cette capacité à prendre sa place face à l'autre, à exister réellement, tout en respectant évidemment la place de l'autre, mais ça c'est ça se fait naturellement. Toujours dans le dans la série Héritage transgénérationnel, j'ai eu un monsieur pas il n'y a pas très longtemps qui était venu pour à la fois des problématiques d'ordre émotionnel et physique, une tumeur en l'occurrence. Et ce qui est ressorti, c'était une croyance familiale, il ne faut pas montrer ses émotions. Donc ça, c'est, je pense, assez courant. Et voilà, il avait ça en lui, il n'en avait pas forcément conscience, enfin peut-être un petit peu, mais c'était quand même assez, assez loin. Et en fait, chez lui, ça se manifestait de différentes manières. Alors, il y avait l'aspect, il y avait la tumeur, ça c'est une chose, mais d'un point de vue émotionnel, ça se manifestait par des excès émotionnels. Donc, c'était un peu le contraire, il était en réaction par rapport à cette croyance. Donc, on n'est pas toujours dans le schéma familial, on peut être aussi en opposition et on peut avoir des comportements complètement contraires au blocage ou aux mémoires que l'on porte. Et j'en viens au quatrième point, qui est l'inconscient collectif. Alors là-dedans, on retrouve typiquement toutes les mémoires de traumatisme. Ça peut être l'esclavagisme, les guerres, les persécutions, les viols, les agressions, les abandons, les trahisons, etc. Par exemple, une personne est venue me voir parce que elle n'arrivait pas, catégorie j'arrive pas, à m'épanouir professionnellement, alors qu'elle venait de faire une reconversion professionnelle pour faire ce qu'elle aime. Donc c'est quand même dommage, elle fait ce qu'elle aime, et ça coince. Ça passe pas, elle n'est pas heureuse, ça marche pas. Alors forcément, si elle n'est pas heureuse et qu'elle n'est pas à l'aise, ça marche pas. Non, ça c'est complètement logique, mais le fait qu'elle se sente pas bien dans le métier qu'elle a choisi, c'est quand même un peu embêtant. Et bien là, ce qui venait dans l'inconscient collectif, c'était les mémoires de personnes qui avaient souffert d'être eux-mêmes. Et ça, ça se manifestait. Ça se manifestait. C'était des images que je percevais pendant le soin. Notamment dans des dictatures, dans des régimes politiques qui niaient l'existence de l'individu et la différence, dans des armées, dans, on m'a dit, tout ce qui porte un uniforme, tout ce qui est uniforme, bon, je suis désolé s'il y en a parmi vous qui portent des uniformes, hein, je ne juge pas, mais enfin c'est ce qu'on m'a dit. Et on m'a dit aussi, ça se retrouve notamment dans nos sociétés modernes, par exemple, avec le diktat de l'apparence physique. Avec un schéma relativement uniforme là aussi. Et donc c'était cette souffrance d'être soi-même, et bien ça, toutes les âmes qui avaient expérimenté cette souffrance d'être eux-mêmes avaient développé collectivement une croyance que être soi-même, forcément ça veut dire souffrir. Et la personne, ma cliente, eh ben, elle portait ça dans ses énergies. Donc, évidemment, quand on a une croyance comme ça, c'est difficile de s'autoriser à être soi-même. Hein. Là, dans le soin, ce qui est apparu, c'était la nécessité de délivrer un message à toutes ces âmes. Donc, je lui ai demandé de se connecter aux âmes de toutes les personnes qui avaient souffert d'être elles-mêmes. Donc, ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est comme si on se connectait à une âme, hein, c'est pareil. Et de leur expliquer que cette expérience de souffrance, elle était là pour les aider à dépasser ce cap, les aider à apprendre à être elles-mêmes et les aider à mieux intégrer le fait d'être elles-mêmes et à mieux ressentir la joie d'être elles-mêmes le jour où elles y arriveront. Et une fois qu'elle a pu délivrer ce message, elle a pu laisser partir cette croyance pour ensuite commencer à mieux se sentir dans l'activité qu'elle avait choisie. Un autre exemple, Je vais abréger un petit peu pour laisser un peu de place aux questions. Une personne qui était bloquée dans son rapport à l'argent et qui avait du mal, qui était incapable de, à la fois de valoriser ses prestations et de les vendre. Eh bien, on a recontacté une souffrance qui était la souffrance d'être évalué en fonction de son travail et en fonction de ses compétences. Et ça se manifestait, par exemple, dans l'esclavagisme. Forcément, les esclaves étaient évalués en fonction de leurs compétences physiques. Dans des familles pauvres, notamment des familles au Moyen-Âge, familles paysannes au Moyen-Âge, avec le rejet des faibles, rejet des filles souvent, parce qu'elles n'avaient pas forcément, ou les faibles d'une manière générale, n'avaient pas forcément les aptitudes physiques pour pouvoir aller travailler au champ et nourrir la famille. Ça se manifestait aussi, ça se manifeste encore aussi chez les enfants à l'école, cette souffrance d'être évalué. En tout cas, c'est ce qui est apparu dans les soins. Ce n'est pas très surprenant. Surtout avec l'école qu'on a chez nous aujourd'hui. Et ce qu'il y avait derrière cette souffrance, eh bien, finalement, c'est une confusion. Confusion entre la valeur de l'être et la valeur de ses actions. Donc, ma cliente a pu accueillir ça. Elle a pu remercier ça. Je reviendrai sur le merci tout à l'heure. Et lorsqu'elle a pu accueillir et remercier, il lui a été possible d'accepter, de reconnaître la valeur de chacun, quelles que soient ses compétences, quelles que soient ses aptitudes, et de reconnaître par là même sa propre valeur et la valeur de ses prestations. Et au final, d'oser, c'était le message qu'on lui donnait, d'oser offrir ce qu'elle avait à offrir, sans attente, de manière à ne pas être jugée. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais ça veut dire, ça, c'est pareil, c'est des messages qui viennent en soin, ça veut dire que si vous faites quelque chose avec des attentes, avec une attente de retour, de reconnaissance, avec des attentes, eh bien forcément, vous serez jugé en retour. Donc, faites plutôt sans attente, quoi. Alors oui, j'ai dit que je reviendrai sur le remerciement. Il y a deux étapes incontournables dans tous les soins. C'est l'accueil, donc accueillir ce qui est là, la mémoire, l'héritage, l'événement passé. Et c'est la gratitude. Gratitude pour ce qu'on porte comme mémoire. Gratitude pour tout ce qui nous a bloqué, pour tout ce qui nous a empêché, pour tout ce qui nous a pourri la vie. Hein ? Mais c'est important de remercier parce que si c'était là, c'était là pour une bonne raison. Les croyances, elles sont pas là par hasard, les blocages sont pas là par hasard. Tout ça, c'est un rôle à jouer. Souvent c'est un rôle de protection, enfin les peurs ça peut être un rôle de protection, je vais pas rentrer dans le détail, mais si on a ça en nous, c'est parce qu'à un moment on en a eu besoin. Donc il n'y a pas les bonnes ou les mauvaises croyances, il y a les croyances qui sont utiles et il y a les croyances qui ont été utiles, sous-entendu qui maintenant sont devenues inutiles. Voilà. Et soit elles sont utiles, soit elles ont été utiles. Donc c'est important de les remercier. Et d'ailleurs, quand on dit merci en français, ça a un double sens. Et ce n'est pas par hasard, là non plus. Quand vous remerciez quelqu'un, eh bien, ça peut être pour exprimer votre gratitude. Et puis ça peut aussi être une manière de lui demander de sortir de la salle. Voilà. Parce que la gratitude, c'est la première étape vers la libération. Alors, pour synthétiser, donc le mécanisme, c'est un peu toujours le même, le mécanisme qu'on déroule dans tous ces cas, c'est d'abord de se connecter à l'expérience qui est à l'origine de la problématique, quelle que soit la problématique, qu'elle soit d'ordre physique, émotionnel, croyance, blocage, financière, tout ce que vous voulez, se connecter à l'origine profonde, à la cause profonde. Donc ça, c'est le thérapeute, en l'occurrence c'est moi, qui le fait. Ensuite, la deuxième étape, alors pardon, moi ce que je fais, c'est que je vais chercher l'information auprès des énergies de la personne, et ensuite la personne se connecte énergétiquement. Hein, il y a deux connexions, celle du thérapeute et il y a celle du patient. Ensuite, c'est l'étape de libération, À chaque fois, ça se passe d'une manière différente. Vous l'avez vu au travers des exemples que j'ai pu donner. Il n'y a pas deux séances qui se passent de la même manière, ça n'existe pas. De la même manière qu'en démarrant un soin, je ne sais pas si ça va partir vers une expérience de la petite enfance, une vie antérieure, l'arrière-grand-mère, ou alors de l'inconscient collectif. Et puis, une fois qu'on a accueilli, qu'on a libéré, eh bien, c'est revenir dans sa propre expérience actuelle en intégrant les changements. Une autre manière aussi d'appliquer ça, qui sort un petit peu de ces quatre cases, c'est de poser des questions, de contacter. Alors moi, je dis que je me connecte aux énergies. Des fois, les gens me disent, mais en fait, vous contactez mes guides. Ben oui, c'est pareil en fait. Tout ça, ça revient au même. Tout est énergie. Et les énergies, vos énergies, elles ont toutes les réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Elles ont la trace de tout ce que vous avez vécu, de tout ce que vous êtes. Et en fait, elles ont les réponses. Donc, j'ai régulièrement des gens qui viennent me voir pour poser des questions à leur guide ou à leurs énergies. Des gens qui veulent savoir, qui veulent avoir des messages, et bien voilà, on fait un soin dans ce sens. Une demande assez fréquente. Voilà, le salon va fermer dans 10 minutes, il n'y a pas le feu, vous avez le temps. Une demande assez fréquente, c'est quelle est ma mission de vie ? Pourquoi je suis fait ou pourquoi je suis faite, quel est mon talent. Voilà, ça arrive souvent. J'ai des personnes qui s'interrogent sur leur évolution professionnelle, notamment.